Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Camille.
Bonsoir Poulpe.
Ça va?
Très bien.
Ben cool alors, ça me fait plaisir. Bienvenue dans Crac Crac, le podcast qui excite vos oreilles et vous fait mouiller les lobes. Dans cette émission, nous allons parler de sexe et d'argent. Vous savez, le rapport entre le sexe et l'argent remonte à des millénaires et a d'ailleurs donné naissance au plus vieux métier du monde. Pas les prostituées, mais les profs de SVT qui sont payés pour nous apprendre la sexualité.
S'il vous plaît, la verge est nervurée pour entrer dans la vagin. Vagin avec un S, Fabrice.
Tellement de questions au sujet de la thune, dans la teub, du bif dans la baise, du flouze dans les touzes. Bref, tellement de questions. Par exemple, pourquoi l'endroit où se font tous les échanges financiers du monde, la bourse, porte le même nom que ma couille? Et pourquoi la fente du distributeur de boissons où l'on met les pièces porte le même nom que ta schneck, Camille?
Personne dit fente, Poulpe.
Ok, et l'écu dans tout ça. Je parle de la monnaie, hein, bien sûr. Il existe des catalogues de prix d'une maison close en 1915, la maison de Madame Lapompe, qui permet de voir à quel point l'inflation a touché le cul. Attention, voyage dans le temps, 1915.
Branlette ordinaire, une seule main, 33 sous. Glougloutage du poireau, 3 francs 50.
Vous voulez la carte du magasin?
Mais tu sais, le lien entre sexe et argent, c'est pas que les rapports tarifés. Il y a des gens, par exemple, qui sont prêts à payer je sais pas combien pour se faire allonger le pénis.
6 379,50 € et la mutuelle prend rien en charge. Enfin, après, je sais pas, je me suis renseigné, mais pour un pote, en fait. Enfin, c'est un pote imaginaire qui s'appelle Fabrice.
Non, j'existe pas.
Ok, en tout cas, ce podcast va être très riche. Sortez les billets, bande de petites salopes. Bon, Poulpe, je sais que tu es comme moi, tu es une grande romantique.
Oui.
Mais dans la vie, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche.
C'est-à-dire?
Bah non, l'argent est partout autour de nous. Regardez, il est là, dans les campagnes, dans les villes. Il est sur les réseaux sociaux.
C'est une très belle imitation, Camille.
Merci, Poulpe. L'argent est partout dans le sexe, mais même avant le sexe. On parle parfois des mecs qui paient des coups, des restos pour choper. Mais bordel, ça coûte cher aussi d'être une meuf et surtout de répondre aux injonctions sociétales sur le fait d'être baisable ou pas. 3 600 €, j'ai calculé. C'est ce que j'ai dépensé chez l'esthéticienne entre mes 16 et 30 ans pour me faire épiler la chatte.
Camille, calme-toi. C'est hyper bien ce cri du cœur, mais bah, si on peut enchaîner, c'est cool.
Ok, ok. N'empêche, on peut pas être au cœur d'une société ultra-capitaliste et se dire « Oh non, le sexe a rien à voir avec l'argent ». Et pourtant, on a encore du mal à en parler. En France, le plus grand tabou, c'est pas forcément comment tu baises, mais combien tu gagnes. Donc imaginez combien tu baises en fonction de comment tu gagnes.
On va parler dans cette émission des camgirls en compagnie de Carmina, rédactrice en chef du site Le Tag Parfait, auteure, réalisatrice, productrice et camgirl. Bonsoir Carmina.
Bonsoir Poulpe.
Ça va bien?
Ça va impeccable.
Super. Nous aurons aussi Maxime Donzel qui viendra nous parler du striptease dans le cinéma avec sa rubrique Culture Beat. Salut Maxime.
Bonsoir.
Tu assumes toujours ce titre Culture Beat?
Oh oui, j'aime.
Génial.
Et avec nous également le philosophe pop Richard Memto avec qui on va parler des applis de rencontre qui nous coûtent la peau du clito. Richard Memto, tu es philosophe,
oui.
Mais comme tu as beaucoup moins de 60 ans, je vais te tutoyer.
Oh, vas-y.
Tu viens de publier Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, aux éditions Zone. Ton sujet d'étude, donc, c'est la vie connectée d'aujourd'hui.
Justement, parlons de ces applis de dating, tu t'y es vachement intéressé. C'est quoi leur modèle économique?
Waouh.
Ouais.
le modèle économique, on pourrait dire au fond, c'est de passer du freemium au premium. C'est-à-dire que d'abord, tu as un modèle gratuit, tu y vas, t'es intéressé, on te montre un petit peu la marchandise. Et puis là...
Ça, c'est le freemium,
mais au bout d'un moment, on te pourrit tellement ton expérience que tu as finalement envie de passer au premium. Et là, tu commences à payer pour avoir droit, alors sur Tinder, à plus de likes, de super likes, etc.
Est-ce que tu penses ces applis, ces sites de rencontres, c'est des hypermarchés de la drague?
Non, pas du tout. Je précède directement la réponse. Non, parce qu'en fait, en réalité, réalité, le principe d'organisation des sites de rencontres, c'est plutôt les communautés ou les affinités. Par exemple, quand on est gay, on drague les gays, quoi. Ou alors, si vous êtes bear, dans la communauté gay, que je connais le mieux, hein, mais là, dans ce cas-là, on s'inscrit sur Growler, qui est la communauté.
Growler.
Donc, alors, c'est les mecs poilus. Donc, peut-être poilus barbus, ça concerne peut-être certaines personnes autour de la table. Moi, j'y suis allé un petit peu pour voir, mais de toute façon, comment dire, l'idée que l'autre est comme un produit, quoi, elle est fausse. C'est-à-dire qu'on veut tenter ce truc de marché de la drague, mais en fait, l'autre, c'est pas une tranche de jambon. C'est-à-dire, si on le veut, bah, il peut nous dire non, il peut nous bloquer, il peut nous faire en fait, des tonnes de choses.
Ce que peut pas faire la tranche de jambon.
Exactement. On dit souvent que celui qui domine, c'est celui qui fait semblant d'avoir le moins d'intérêt pour l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le principe du moins d'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est
il faut dire...
moi je te fuis, ouais, fuis-moi, je te suis.
Mais exactement. Le truc horrible, quoi, horrible, auquel on est tous soumis à un moment ou à un autre. Mais...
C'est... Pourquoi tu me regardes à ce moment-là, Camille? Je t'ai jamais fait ça.
Il y a peut-être des harceleurs ici. Mais c'est idiot, surtout que ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le calcul économique. Au contraire, on fait semblant, quoi. Donc on négocie et on joue, et c'est en fait un vieux truc. Je veux dire, les libertins du XVIIIe siècle avaient mieux compris que nous. Nous, on pense que c'est des calculs économiques. En fait, c'est un jeu, quoi.
Est-ce que les gens qui ont plus de thunes, du coup, chopent plus facilement sur ces applis de dating?
La vraie question. Ben, en fait, oui et non, parce que les applis de dating, en fait, elles sont prises par ceux qui ont de l'argent, s'ils veulent vraiment conserver leur argent, le placer dans un foyer, le patrimoine, etc. En gros, par les classes supérieures. Les autres, ils s'en foutent un peu. Ils ont moins à perdre, quoi. Donc, d'une certaine façon, eux ne sont pas dans la reproduction tout de suite de leur mode de vie bourgeois. Ils peuvent papillonner, ils peuvent s'éclater. Et au fond, le rapport d'argent, il est mis entre parenthèses sur l'application.
Mais techniquement, tu disais que tu peux passer du freemium au premium et payer plus de... Ouais, donc c'est les gens logiquement...
Ouais, mais moi, je suis resté en freemium, tu vois. Non, je pense justement que c'est... Évidemment, ouais, je préfère rester en freemium.
J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une tendance, j'ai l'impression, corrige-moi, et aussi Carmina, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tout le monde va se draguer maintenant sur Instagram.
Ah ouais, c'est horrible.
Est-ce que c'est parce que c'est gratuit?
Je sais pas, mais moi c'est horrible. Ouais. Enfin, en tant que moi, c'est vraiment un des trucs qui me. Enfin, quand ils ont ouvert, je m'en souviens quand ils ont ouvert les messages directs sur Instagram. Pour moi, je me suis dit ça y est, ça va être l'horreur, ça va être la catastrophe, et ça n'a pas loupé quoi. Si j'ai envie de me faire draguer, je vais sur OkCupid, je vais sur Tinder, etc.
Moi, je sortais avec un mec de Mythique qui me disait non, chez nous il y a pas de faux comptes et tout et tout. Donc c'est vrai qu'après il y a vraiment, c'est marrant parce que du coup il y a vraiment des sites qui sont plus ou moins pourris. Ils communiquent assez mal d'ailleurs généralement sur les chiffres. Enfin, Ashley Madison par exemple, on sait que parmi les leaks, il y a surtout le calcul du nombre de bots qui était super élevé quoi, et des bots en fait qui du coup automatiquement en fait pourrissaient les relations disons hétéro, et les seuls qui étaient tranquilles c'était les meufs lesbiennes qui draguaient par Ashley Madison. Donc
l'ajout de bots sur des applis de dating, c'est pour appâter le chaland et pour qu'il y ait beaucoup plus de gens qui lâchent de la thune. Pardon, je reviens au thème de la thune. Je suis très capitaliste.
Tu veux savoir où tu mets ton argent?
C'est le thème de l'émission, ça serait la breakdance. Je vous parle de breakdance.
On devrait,
moi ça me rappelle, tu parlais, t'es sorti avec un mec de Mythique.
Ouais, putain. Ouais, ouais
mais ça me rappelle quelque chose. Monsieur Poulpe, une anecdote sur absolument tous les thèmes de l'émission. Effectivement, j'ai une anecdote sur le thème de cette émission. Je me suis inscrit sur Adopte un mec, donc c'était il y a longtemps. Et dès le premier jour, y a une fille qui m'a dragué, qui m'a dit viens et tout, viens chez moi direct et tout. Et c'était une chargée de com d'Adopte un mec. Et je me suis retrouvé dans les bureaux d'Adopte un mec. C'est beau, hein?
C'était une super anecdote. C'était l'anecdote de Monsieur Poulpe sur tous les thèmes de l'émission. J'avais une question un peu plus globale. On voit comment les applis, les sites de rencontres ont changé les rapports de séduction. Mais est-ce que les nouvelles technologies ont aussi changé le sexe tarifé dans la vraie vie?
J'ai des collègues travailleuses du sexe qui utilisent les applis de dating pour trouver des clients. Oui, c'est tout à fait ça arrive.
C'est le système des roses, c'est ça aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est pareil en France.
Bah parce qu'en fait, disons que comme on est dans une situation légale qui est compliquée pour les personnes qui font du travail du sexe, effectivement, ça a fout mal d'arriver en disant voilà c'est 200 euros ou quoi. Donc les gens disent c'est 200 roses. Voilà.
Je sais pas, en France, on dit ça? On dit c'est 200 roses pour dire 200
euros? Je l'ai déjà vu,
Y a un émoticône sur Grindr, c'est le petit diamant.
Le mec super.
Je connais pas Grindr.
Je pensais que c'était un cadeau.
Ah non, c'est pas le petit tatouage un peu sympa.
Tu pensais que c'était genre tu brilles comme un diamant?
Tu cherches des diamants, quoi. T'es un croqueur de diamants, en fait. C'est ça, d'accord, le truc.
Donc, les gens qui écoutent ce podcast, cherchez les diamants sur les réseaux sociaux. Richard, est-ce que t'as un téléphone?
Ouais.
Bon, ben moi j'ai un répondeur. Dans cette émission, on a des amis qui nous laissent des messages sur un répondeur en rapport avec le thème de l'émission. Donc là, c'est sexe et argent. Et justement, on a une amie qui est joueuse de poker professionnelle qui nous a laissé un message. On l'écoute.
Coucou Poulpe, je t'en avais jamais parlé, mais il y a quelques temps, j'ai reçu des photos et des vidéos hyper compromettantes d'un pote à moi évoluant dans le monde du poker. Certains clichés le montraient portant des sous-vêtements de sa mère ou de sa meuf, avec des mots comme « slut » ou « bitch » marqués au rouge à lèvres sur son ventre. Il y avait aussi des vidéos qu'il mettait en scène avec des personnes du même sexe que lui et qui donnaient tout son sens à l'expression « ne pas parler la bouche pleine ». Bon bref, l'histoire pourrait te paraître assez banale hein, à toi, mais si elle s'arrêtait là. Sauf que les visuels m'ont été envoyés par la personne elle-même. Et cadeau bonus, dans le mail, il avait noté tous ses identifiants et ses mots de passe Facebook, Gmail, Insta et surtout tous ses numéros de CB, ses photos de CB, tous ses numéros de compte bancaire, et il me suppliait de le faire chanter en lui demandant de me virer de l'argent sur mon compte bancaire. Et évidemment, bon, bah, plus le montant était gros et plus ça l'excitait. Là, je sais qu'à cet instant précis, tu es en train de te demander si tous mes sacs de marque ont été achetés par ce biais. Eh bien, écoute, je t'invite à me rappeler entre deux séances de tantrisme vegan pour avoir la fin de cette histoire. Bisous.
Merci, Cathy. Je pense qu'on peut peut-être se commander à manger avec les cartes de la
monsieur,
personne.
Grave. Je crois qu'en fait, moi, ce monsieur, il cherchait une domina. Si je te dis domina, Poulpe, tu penses à quoi?
Je pense à Domina Spizzo, qui fait des margaritos.
Si je te dis Findom.
Findom, c'est la Finlande, mais en finlandais. C'est comme ça que ça se prononce.
Putain, ça sert à rien. Moi, avant, quand je pensais domina, je pensais grande bourgeoise dans un immense donjon à côté de Clermont-Ferrand. Eh bien non, une nouvelle génération de domina est là. Je suis allée en rencontrer une, maîtresse Isadora, qui organise ses séances dans son 40 mètres carrés à côté de Paris. Et je lui ai posé des questions sur l'argent dans le BDSM. On a parlé de ce truc bizarre qui s'appelle le findom ou findoming. C'est le fétichisme des hommes qui sont excités par le fait qu'on vide leur compte en banque. Je vais aller voir maîtresse Isadora, qui va nous parler de domination, évidemment, et de findom. Financial domination, je crois. Je suis au troisième étage. Comme quoi, tous les donjons ne sont pas forcément dans des caves. Bon. Bonjour, maîtresse Isadora.
Bonjour, enchantée.
Donc là, on est chez vous et on est aussi dans l'endroit où vous recevez vos soumis, c'est ça?
Oui, voilà, exactement, c'est ça.
On peut regarder, on peut faire un tour?
Oui, j'aménage le lieu exprès quand j'ai des soumis qui viennent. Et je sors tous mes accessoires, mes fouets, godes ceinture, instruments, etc. Quoi. Voilà. Ça, c'est une machine, c'est un masturbateur, en fait. C'est fait pour faire du milking. C'est quand on force le soumis à éjaculer sans qu'il ait forcément de plaisir et qu'on le traite comme un animal, en fait.
Je vais boire différemment mon café latte tout à l'heure. J'ai découvert récemment ce qu'était le findom, qu'on appelle aussi findoming. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est?
Alors, le findom, c'est le soumis, en fait, est là juste pour payer la maîtresse, pour lui donner de l'argent. Il sert à rien d'autre qu'à ça. Il n'y a même pas forcément de rencontre entre lui et la maîtresse. C'est vraiment un portefeuille vivant. On lui parle comme de la merde, c'est de la merde, il sert juste à nous payer, point barre. Pour avoir eu quelques soumis qui étaient money slave, ils m'ont expliqué qu'eux ressentaient une forme de puissance à faire ça. Parce que finalement, ils achètent le temps d'une jolie femme et ils achètent le temps d'une déesse.
Et il y en a qui vident leur compte en banque ou ça reste raisonnable?
Ah non, il y en a qui vident leur compte en banque, ouais. D'ailleurs, c'est toutes les bourses, on s'imagine que c'est des hommes très riches qui font ça. Non, pas du tout. Il y a des hommes avec des revenus très modestes qui sont capables vraiment de se mettre en difficulté pour ça.
Ah ouais?
Ouais.
Ils sont appelés money pig, donc en français on dirait cochon payeur, mais ça sonne mieux quand même, money pig. En quoi c'est important les mots et le vocabulaire dans ce rapport de pouvoir?
Les mots que j'utilise, ça peut être pigeon, vache à traire, ou plus communément, sale chienne.
Il faut les dire avec un ton particulier. On va dire, ah, espèce de pigeon, ça marche pas.
Non. Non, faut être sûr de soi.
Et ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé?
Oui. On nous apprend tellement dès toute petite, faut être poli, faut dire merci, il faut bien parler aux gens, donc j'ai dû déconstruire tout un apprentissage. Rien que le fait de pas dire merci à mon soumis quand il exécutait un ordre, c'était difficile, j'ai dû m'habituer à ça. Et non, il ne faut surtout pas leur dire merci, ils sont là pour ça.
Il y a des jeunes femmes sur Twitter qui sont spécialisées dans le findom. En fait, leurs posts Twitter sont liés aussi directement à des comptes PayPal. Elles ne rencontrent pas directement les soumis. On a une qui venait de commander sur Uber Eats. Du coup, elle disait « Je veux 25 euros sur mon PayPal immédiatement, j'ai trop faim, je veux manger asiatique. » Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, genre « Eh tiens, j'ai besoin de 19,50 euros pour un menu wok impérial ?»
Non, 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 ah non, vraiment pas. Moi, je demande des vraies offrandes. J'aime pas tellement faire des semi-choses. J'ai pas besoin de 20 balles, quoi. Bah, d'ailleurs, quand les soumis veulent m'offrir un cadeau, etc., je leur dis « Tu veux m'offrir un cadeau ? Ok, mais t'as combien ? Parce que si c'est pour m'acheter une paire d'escarpins à 200 euros, je peux me les acheter moi-même. Donc, dis-moi combien t'as et ensuite, je te dirai ce que tu peux m'offrir.
» Et est-ce que vous pensez que c'est un renversement du rapport de pouvoir homme-femme ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
De toute façon, c'est très complexe parce que dans la domination, on dit souvent que le vrai dominant, c'est le soumis. Et en fait, on a le contrôle que parce qu'il nous le donne. Mais je dirais que dans le findom, c'est encore plus exacerbé parce que oui, forcément, on a toujours le cliché de l'homme qui paye pour la femme. Et quand on paye pour quelque chose, il y a aussi une forme de pouvoir qui s'installe. Après, quand on voit Queen ou DS Mila, elle demande quand même 20 balles à ses soumis. Je trouve pas que ce soit une forme incarnée de pouvoir féminin, là, en tout cas.
Ouais. Si moi, je vous invite à déjeuner, là, par exemple, bientôt, est-ce que je deviens de fait un peu dans un rapport de soumission ou rien à voir ?
Non. Non, heureusement, on peut encore m'inviter à manger sans que je devienne tout de suite maîtresse Isadora.
Ok. Ouf.
Waouh! Merci Camille. Je crois que tu disais pendant qu'on écoutait que t'étais un peu jalouse de pas avoir de money slave.
Ouais, j'aimerais bien, mais c'est beaucoup de travail aussi. Du coup, en fait, j'ai aussi grave la flemme d'avoir un money slave.
Mais quand tu dis c'est beaucoup de travail en amont pour avoir cette personnalité qui brise les hommes, ou c'est aussi un beaucoup de travail d'entretien de ça?
Les deux, parce que en fait, c'est comme dans toutes les formes de travail du sexe, on pense que c'est en fait, les gens ont cette tendance à croire que c'est de l'argent facile, et en fait, c'est des métiers qui sont hyper complets et qui demandent beaucoup d'investissement personnel, financier, de temps, et puis la plupart du temps émotionnel aussi, parce que quand on parle avec un client, on parle avec une personne, quoi. Donc c'est une relation qui demande un travail émotionnel aussi, en plus de tout le travail que ça peut demander à côté. Donc c'est
ce qu'explique d'ailleurs maîtresse Isadora. Elle, c'est une domina, on va dire, professionnelle et généraliste. Enfin, c'est comme un médecin généraliste, mais version domina, quoi. Mais en fait, il y a d'autres meufs qui sont spécialisées sur Twitter, vraiment sur un truc très à base de 20 boules et 40 euros, quoi.
Alors moi, je connaissais pas les dominas sur Twitter.
Oui, si ça t'intéresse, tu peux suivre Quintalia sur Twitter. Ça donne ça.
Dépouille du jour, les bâtards. Avec Sandra, on a dépouillé une grosse pute à Londres. C'est l'argent qu'on mérite, ça, les petites salopes. Ce sera qui la prochaine ?
N'oubliez pas, les petits bâtards. Votre argent, c'est notre argent.
Coucher à nos pieds, les chiennes.
J'ai envie de retweeter. Ça marche. Elles m'ont dominé, je vais faire un RT. Pour ce reportage, Camille, bravo. Mais du coup, tu me donneras la note de frais ?
Ouais, t'inquiète pas, petit bâtard.
Ouais.
C'est bien, mon petit porcelet. En parlant de cochons, il y en a un qui voit du sexe partout, c'est Maxime Donzel et sa rubrique Culture Beat.
Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout. Alors, je viens vous expliquer où on peut se rincer l'œil dans la pop culture. Et alors, aujourd'hui, comme on parle sexe et argent, eh ben, j'ai choisi l'activité où, vous savez, on met des billets dans les strings. On va parler de striptease. Alors, dans les films de ce genre, je me suis dit que j'allais pouvoir mater Pervers Pépère. Eh ben, j'ai été très déçu parce que dans les films de striptease, on ne voit rien. J'en veux pour preuve l'un des classiques du genre.
Ils étaient sans travail.
T'es comme nous tous, t'es à la casse, mec.
Maintenant, ces chômeurs ont trouvé un bon plan.
Le striptease.
Pour mettre en valeur leur talent caché.
Nous, on ira jusqu'au bout.
Faux, ils vont pas jusqu'au bout dans The Full Monty, un film sur des ouvriers anglais qui se mettent au striptease et dont le titre veut littéralement dire tout montrer en anglais. On ne voit pas le moindre bout de gland, pas une peau de couille, même pas un vieux prépuce flaccide un peu fromageux, rien. C'est un scandale. C'est comme si dans un film avec Christian Clavier, il n'y avait pas de blague raciste. Chez les femmes, c'est pas beaucoup mieux. N'espérez pas voir le périnée de Kim Basinger dans 9 semaines et demie ou la raie de Jamie Lee Curtis dans True Lies. Le striptease au cinoche, ça se termine en soutif culotte. Alors, par acquis de conscience professionnelle, je suis quand même allé voir Queens, le dernier film avec Jennifer Lopez, où elle donne des leçons de pole dance. Alors attention, parce qu'on va écouter un extrait et sans l'image, on peut croire qu'elle parle de tricot.
Crochet avant. Crochet cheville, crochet genou. De là, tu pars en carrousel. Puis tour et enveloppement.
Voilà, non, elle parle bien de pole dance. Alors évidemment, dans ce film-là non plus, on ne voit pas grand-chose. Et en fait, c'est pas tant que le film n'est pas sexy, c'est surtout qu'en fait, surprise, il parle de la crise économique des subprimes en 2008. Non, non, vraiment, l'intrigue, c'est vraiment ça. C'est que les traders n'avaient plus les moyens d'aller en club de strip et du coup, les strippeuses ont dû changer de business model. C'est vrai que c'est malin parce que tu y vas pour voir des tétons et tu ressors en ayant un avis éclairé sur les fonds d'investissement épargne pension. Alors certes, il y a quand même des films où on voit tout, sauf que du coup, c'est pas forcément très bandant en fait. Je pense au meilleur film de l'histoire, hein, Showgirls. Donc là, en fait, on en voit même un peu trop. Mais c'est le propos du film qui, en fait, veut montrer l'aspect glauque du sexe à Las Vegas.
Dis-moi, toi, la lap dance, tu connais ?
Non.
C'est $50 à toi de motiver le client. S'il sort sa queue pour t'arroser de foutre, t'appelles le videur. S'il te refile un bon pourliche, c'est que c'est un client.
Sexy. Donc, suite à ce film, Elizabeth Berkeley, l'actrice, a perdu sa carrière d'actrice. Selon l'adage américain, si on voit ton cookie, ta carrière est finie. Alors, pour expliquer ce phénomène, j'ai deux pistes. Hein. En fait, on a envie de voir, mais une fois qu'on a vu, on n'a plus de désir. Ou notre société est rongée par un patriarcat hétérosexiste capitaliste qui le mènera à l'autodestruction dans un futur proche. Voilà, je vous laisse choisir votre camp. Et puis, alors forcément, hein, si on veut vraiment tout voir, bah, y a toujours le porno. Hein. Donc, je me suis infligé Striptease Lubrique, un porno hétéro des années 70 que je qualifierais d'assez contemplatif, puisque l'histoire, c'est une femme fait un striptease devant trois mecs, ensuite, il y en a une autre, ensuite, il y en a une autre, ensuite, il y en a une autre, et à la fin, tout le monde partouze. C'est presque du Bergman, en fait, tellement c'est épuré. Et puis, alors, à un moment, il y a un truc qui fait exploser les hommes de rire au début, avant que les filles arrivent. Mais vraiment, ils trouvent ça hilarant.
J'ai convoqué quatre gonzesses pour auditionner. D'ailleurs, on essaiera la marchandise.
Okay. Donc ça va pas être possible de se branler là-dessus en fait. Donc voilà, désolé, c'est pas évident en fait de trouver du bon matos à FAP dans les films de striptease. Et c'est pour ça qu'en fait à l'époque où on louait des films en cassette VHS, les scènes de strip dans ces films étaient abîmées parce que les clients frustrés se la repassaient en boucle et que du coup la bande. Donc, non, là, en fait, on a perdu nos auditeurs de moins de 30 ans qui n'ont rien compris. Alors, attendez, c'est, comment dire, c'est comme si vous aimiez tellement ma voix, là, que vous réécoutiez cette partie du podcast en boucle pour vous branler et que, du coup, ça abîme le fichier et que, du coup, on m'entend. Oh, bande de pervers.
Bravo ! Oui ! Bravo ! Maxime Donzel, merci pour Culture Beat. Maxime, ta culture est à l'image de ta bite florissante.
Je te rassure, j'ai un traitement. Hein.
Ah, super.
Je me tourne vers toi, Carmina. Donc, on rappelle, tu es auteure, journaliste, rédactrice en chef du Tac Parfait, la référence du magazine web sur la culture porn, et tu es aussi camgirl. Est-ce que tu aurais aimé, toi, jouer dans Showgirls ?
Déjà, quand c'est sorti, je pense que j'avais... Je suis pas de 10 ans, donc je pense que c'était pas bon. Je sais pas, je l'aime bien ce film, je le trouve marrant et je trouve ça vraiment dommage justement cette histoire que elle était bannie en fait de tous les films parce que juste elle s'est mise à poil quoi. Et,
en plus elle était super.
Non mais ouais, mal, mais
enfin
mais
j'en
ouais.
parle au passé. Mais...
elle, est toujours. Elle n'est pas décédée, oui. Mais elle est toujours super.
On va revenir sur les camgirls. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà concrètement ce que c'est ?
Alors, une camgirl, on dit aussi modèle webcam. Ce sont des personnes en fait qui font des shows de érotique à très hard en fait devant une webcam et tout le monde peut les regarder en se connectant sur des sites internet dédiés.
C'est payant ? Ce sont des sites
Alors, il y a deux modèles. Justement, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les modèles freemium et les modèles premium. Ça marche vraiment exactement pareil. C'est-à-dire que on peut avoir des shows publics qui vont être en freemium, c'est-à-dire que c'est gratuit et tout le monde peut regarder. Et en fait, ça marche au pourboire. Et il peut aussi y avoir des shows en premium, c'est-à-dire que là, on va payer à la minute ou à la seconde. On peut être en privé avec la personne ou pareil, en petit groupe.
Et concrètement, quand on dit payer, c'est combien ?
Ça peut aller de 1 euro à 1000 euros.
1000 euros ?
Je pense que celles qui gagnent très bien aux États-Unis, elles doivent tourner entre 20 000 et 50 000 par mois, un truc comme ça. Et en fait, il y a tous les prix. Ça dépend de ta popularité, ça dépend de ton public, ça dépend aussi de toi, parce que c'est toi qui décides de tes prix, en fait.
Depuis combien de temps tu fais Camgirl ?
Alors, j'ai commencé en 2014.
Est-ce que ça a été... Enfin, tes motivations, c'était quoi ? C'était l'argent ? C'était le...
En fait, moi, j'avais un revenu à l'époque, donc je n'avais pas besoin de gagner ma vie. Donc, c'était plus le côté... c'était une exploration. J'avais envie d'essayer, de voir ce que ça faisait. Et je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien.
Il y a une vraie notion d'exhib qui... te rassure aussi
ouais, ouais, de... ouais. un peu ouais. ouais alors que pourtant je suis pas du tout exhibe au contraire ouais. Et puis en plus bah tu gagnes de l'argent quoi donc c'est tout bénef
c'est exactement ce que je suis en train de faire là, en ce moment
ah, mais parfait ouais. c'est génial hein. Non, mais c'est vachement bien. C'est-à-dire, tu prends du plaisir et tu gagnes de l'argent, donc c'est pas mal.
Est-ce que t'as une spécialité ou est-ce qu'il y a des trucs qu'on te demande spécifiquement?
Mais j'ai pas de spécialité. Je faisais des trucs assez, assez classiques. Hein.
Comme quoi?
On se déshabille, on se caresse, on se masturbe, donc soit avec les doigts, soit avec des sextoys. Si, ma spécialité, c'était de faire je faisais du karaoké en chantant dans mon sextoy comme si c'était un micro. C'est ça ma spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais tout le temps de la musique et du coup, comme quand il se passait pas grand-chose, voilà, je faisais la maligne en chantant dans mon
sextoy. Mais tu chantais quoi?
Bah, tous les plus grands succès de, je sais pas, ça allait de Mariah Carey à Metallica, n'importe. Voilà. En fait, les gens, c'est toi qui leur dis, voilà, si tu me donnes temps, je vais faire ça, si tu me donnes temps, je vais faire ça. Et je sais qu'il y a des fois, comme c'est un peu une petite ambiance, un peu de groupe où on rigole, il y avait des fois où il y avait des gens qui payaient pour que je me rhabille, pour un peu embêter tous les autres.
Un strip à l'envers.
Ouais, voilà, pour embêter tous les autres qui attendaient qu'une chose, c'était que je me déshabille. Mais il y a des gens qui payaient, qui disaient, voilà, moi je mets 200, mais c'est pour que tu remettes ton soutif, tu remets ton pantalon, etc. Donc il y a des jeux. En fait, on passe un bon moment où on s'amuse, quoi, en groupe. Après, en privé, c'est beaucoup plus sexuel parce que c'est un rendez-vous, quoi. C'est comme un date, en fait, avec une personne, on discute, après je me déshabille, je me fais jouir, et puis et après c'est fini.
C'est un show privé, c'est combien? Tu gagnes combien
en,
environ?
En argent?
Ouais.
Moi, là, au début, j'avais commencé à 1 euro la minute. Et là, maintenant que j'ai monté mes prix, en fait, les gens continuent de payer. Donc là, maintenant, je suis à plus à 3-4 euros la minute sur les trucs classiques. Et s'il y a des demandes spéciales, je vais augmenter mes prix, quoi.
Et justement, quand tu parlais des filles qui enchaînaient, c'est une des critiques, en fait, d'Ovidie dans un de ses documentaires, Pornocratie, où elle parle d'ubérisation du X, parce qu'on fait croire aux meufs qu'elles vont être indépendantes et qu'elles vont gagner de l'argent. Mais en fait, il y a genre 70% qui est reversé aux plateformes.
C'est sûr que, effectivement, si un client vient et achète des jetons pour te les reverser en pourboire, tu sais très bien que si la personne a payé 100 $, il y en a direct environ entre 40 et 60 qui vont partir à la plateforme. Alors évidemment, c'est chiant parce qu'on aimerait bien que la personne, si elle donne 100 €, soit 100 € pour nous. Mais sauf qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes en ligne en même temps, avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans chaque room. Donc c'est normal, entre guillemets, qu'il y ait une commission qui parte à la plateforme. Après, c'est des grosses boîtes multinationales capitalistes, donc ils sont là pour le profit, pour les thunes, donc ils s'en foutent un petit peu plus ou moins de la meuf qui est au bout, parce qu'ils savent très bien que si toi t'en as marre et t'arrêtes, demain il y en aura 15 autres qui vont s'inscrire et qui vont démarrer une carrière de camgirl, quoi.
Donc tu fais de la relation tarifée à distance.
Oui.
Est-ce que tu irais plus loin que ça ou pas?
Je l'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais fait de travail du sexe en réel. Honnêtement, je pense que c'est parce que j'ai pas le courage. Émotionnellement, je pense que j'en serais pas capable, en fait. Je sais que la négociation tout le temps, parce que les clients, ils veulent tout le temps négocier.
Je savais pas qu'il y avait un délire de négociation constant.
Ah non, mais c'est ça le gros du boulot. C'est parce que les mecs, tu leur dis, voilà, c'est 200. Ils vont dire, ah bah oui, mais j'ai que 150. Ah bah oui, mais j'ai que 120. Ah bah, est-ce qu'on peut pas faire 200, mais pour 2 heures au lieu d'une? Tu passes ta journée à faire ça, quoi. Il faut que les gens, ils s'éduquent un peu à respecter. C'est comme ça, c'est moi qui décide de mes tarifs. Si ça te convient pas, pas de problème. Mais du coup, va voir quelqu'un d'autre, quoi.
Il y a des camboys pour femmes hétéros?
Pas assez, malheureusement. Il faudrait, hein, mais pas assez. Enfin, il y a un problème avec l'érotisation des corps masculins dans un angle hétérosexuel. L'érotisation du corps masculin gay, ça s'en connaît. Mais du coup, c'est vraiment très spécifique. On va tout à fait le savoir. Si tu fais une séance photo qui est orientée pour un public gay, tu le vois que c'est fait pour ça. Et il n'y a pas encore assez de mecs qui se mettent à poil ou qui font des photos sexy pour un public plus hétéro, pour un public de meufs, quoi. Et c'est dommage.
Bah, on nous a pas appris à apprécier, en fait, un corps nu masculin, voilà, excitant. Et on nous a...
je suis là, quoi. Mais...
c'est un peu habillé, quand même. Hein.
Tente ta chance sur Chaturbate, du coup.
Tu penses que je ferais un bon camboy?
Pourquoi pas, ouais.
J'ai des idées, hein. Tu m'as chauffé.
C'est une idée de reconversion pour toi.
J'y pense depuis déjà pas mal de temps, au moins 2 minutes. Carmina, t'as un téléphone?
Oui.
Eh bien, moi, j'ai un répondeur. Figurez-vous qu'il y a un autre message d'une autre amie en lien avec ce thème. Tu viens d'en parler, Carmina. Cette amie s'appelle Louise Bourgoin. C'est pas une vanne. C'est vraiment Louise Bourgoin qui a laissé un message et on l'écoute.
Salut Poulpito, c'est Louise Bourgoin. J'ai une amie qui prostitue ses aisselles et c'est une partie du corps très appréciée des fétichistes. En fait, c'est la fente sans le trou, quoi. Un truc de geek. Donc j'ai pensé à toi. Rappelle-moi.
Ça vous inspire, l'aisselle?
Ouais, j'aime bien, moi. Je trouve ça cool. En plus, c'est vrai, il y a vraiment un potentiel érotique dans les aisselles. Surtout maintenant qu'il y a un peu cette guerre de est-ce qu'on s'épile, est-ce qu'on s'épile pas, et beaucoup de meufs qui sont pas épilées et tout. Je trouve ça mortel. Moi, je trouve ça chouette, les aisselles, ouais.
Ok, on remercie Louise Bourgoin d'ouvrir
le
débat. Non,
mais elle a tout à fait raison. Les aisselles, si, lécher des aisselles et tout, c'est des trucs qui se font, quoi. C'est cool. Ouais, carrément, ouais.
Ok.
Mais dites donc, ce serait pas le moment de Doctissimoche ? Vous pouvez faire ci, là, en chœur ?
Oui, oui, bien sûr.
Mais dites donc, ce serait pas le moment de Doctissimoche ?
Si !
Ah, le principe est simple. On cherche sur les forums sexo des vraies bonnes questions et on y répond tous ensemble.
Alors, j'ai une question de Nick54ZN. Il a choisi son pseudo, pas nous. Ok, vous êtes prêts ?
Ouais,
prête ?
Vas-y.
Du fait qu'elles se font un max d'argent en peu de temps, ma psychologue affirme que les escortes sont des capitalistes. Pour moi, le capitalisme, c'est se faire un max de sous en exploitant son prochain. Je vois vraiment pas le rapport d'exploitation entre moi et mes escortes. Au contraire, elles ont toutes été respectueuses, honnêtes, aucune arnaque. L'une d'entre elles m'a même offert un beau cadeau. Moi-même, j'adore l'argent. Je joue tout le temps au PMU et au loto. Pourtant, je suis anti-capitaliste. Pour moi, être capitaliste, c'est vraiment gagner de l'argent en faisant du mal aux autres. Or, les escortes gagnent de l'argent en faisant du bien aux mecs. Qu'en pensez-vous ?
Wow. C'est vraiment génial. Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, bah, les escortes, elles font payer parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où on n'a pas besoin d'argent.
C'est
quoi.
Ça, en fait, la question, c'est est-ce que ça leur fait mal ou pas à elles ?
Ouais.
Pourquoi ?
Mais elles vendent leur force de travail, en fait. Donc,
oui,
leur force de travail,
comme tout le monde.
Ouais, ouais, comme un prolétaire chez Marx, c'est-à-dire.
Exactement.
Ouais,
c'est bien qu'on ait cité Marx.
Je vois le philosophe qui. Ouais, ouais.
De Terminal.
Ouais, c'est cool.
Marx, ouais, ouais, je vois, c'est le gars de. Ok, je passe à une nouvelle question. L46-8. Que de pseudo chelou. Alors voilà, j'ai récemment rencontré une fille de 19 ans et on planifie qu'elle vienne habiter dans mon appartement. Elle n'a pas de revenus. J'aimerais savoir combien vous déboursez par mois pour entretenir votre bien-aimé. Je ne parle pas de la consommation gaz, électricité, eau, carburant. Mais combien dépensez-vous en moyenne pour faire plaisir à votre compagne en loisirs et produits de beauté ? Selon vous, combien coûte une femme par mois ? PS, elle a commandé un iPhone 6 à ses parents pour Noël. J'avoue que ça me fait un peu peur.
Bon, c'est une vraie question. Combien coûte une femme par mois ? C'est une vraie question.
C'est beaucoup trop cher.
Ouais, ouais, parce qu'on n'a pas le choix.
Bah, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Taxe rose, machin, ouais, on paye voilà. Deux fois
on paye
plus
tout plus cher, on gagne moins d'argent et on est obligé d'être pas de pomponner H24 pour faire plaisir. Je trouve ça vachement intéressant qu'ils posent la question.
Mais oui.
Parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui posent pas la question alors qu'ils devraient, hein, parce que c'est ce qu'on disait tout à
et
l'heure.
Voilà, là. C'est l'échange ouais. Économico-sexuel.
Bien sûr.
Et toi, t'es pour que ce soit très, très transparent, c'est-à-dire que.
Bah,
on a le droit de calculer et de dire où on en est dans le calcul.
Coûte
quoi.
Temps, quoi. Tu
ouais,
m'as coûté 120 euros.
Je dirais pas ça, mais je dirais juste qu'il faut, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que beaucoup de mariages hétérosexuels, jusqu'à encore maintenant, c'est ça, c'est un rapport d'argent et de domination.
C'est
parce que la plupart du temps, l'homme, il gagne plus, parce qu'il attend des choses de sa femme, parce que la femme, elle bosse gratos, elle a la charge mentale, elle s'occupe des gamins, elle fait le ménage, donc... Elle fournit plein de travail gratuit qui lui est pas rémunéré. Donc, c'est, je trouve ça assez lucide qu'il pose la question. C'est pas mal. Je vais lui envoyer ma facture. Je vais lui faire ça.
Donc, on va lui demander de nous faire vraiment un listing de toutes les activités de cette femme.
Oui.
Pour qu'on puisse faire une grille tarifaire.
Oui, absolument, absolument.
Oui, on un va devis, faire un devis de femme.
Et à la fin, il va pleurer parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup trop cher.
Ouais.
Donc, il va être déçu.
Il aurait dû emménager avec un homme.
Oui, mais j'étais en train de me dire, mais en fait, un homme peut-être coûte plus cher qu'une femme.
Certains, oui.
Ça se trouve.
En produits de beauté à la con ?
Mais, alors déjà, pardon, mais une crème hydratante, c'est quand même hyper important quand on habite en ville. Bon, bref, un jour, on trouvera combien coûte une femme et en bonus, combien coûte un homme. Ça peut être intéressant aussi. Camille, tes recommandations ?
Oui, quelques livres. Pourquoi j'ai fait ce truc genre « oui,
oui » La chronique culture.
Quelques livres pour en savoir plus, en fait, sur le sujet sexe et argent. Alors, à propos des applis de rencontres en soi, il y a le livre « L'amour sous algorithme » de Judith Duportail, aux éditions La Goutte d'Or, qu'on peut recommander. Une BD passionnante qui vient de sortir, qui s'appelle « Putain de vie, itinéraire de travailleuse du sexe » de Muriel Doru, aux éditions La Boîte à Bulles. Et un grand classique que je vous recommande, « Le corps et l'argent » de Rouen Ogienne, aux éditions La Musardine.
Eh bien voilà, cette émission est terminée. Alors qu'est-ce qu'on a appris, les amis ? Qu'est-ce qu'on a appris au cours de cette émission ?
Que les diamants sur Grindr,
ouais.
Je savais
ça,
pas.
C'est
hein.
Un
vraiment,
vrai
je l'ai
truc.
Appris.
Et je suis persuadé que c'est pas que sur Grindr.
Non, c'est sur les autres, ça doit marcher aussi. Je savais pas, honnêtement.
Que les money slaves, c'est pas une si bonne affaire.
Ouais.
Alors
mais
franchement... c'est beaucoup de travail. Je pense qu'il faut retenir que le travail du sexe, c'est beaucoup de travail et que c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Et ouais, si les gens pouvaient juste retenir que bah, il faut être sympa avec les personnes qui font du travail du sexe, moi je serais contente.
Ouais. Voilà. En tout cas, tu nous as tous donné envie d'être gentil avec toi.
C'est vrai, ouais. Ah, bah, si, je suis ravie.
Bah, Richard, moi pareil, tu nous as appris plein de trucs, mais pas combien coûte un homme. Et ça, j'aimerais que tu taffes
c'est
dessus.
C'est pas, c'est ça.
Prochain essai philosophique.
L'amitié. Ouais, ouais. Bah,
merci Carmina. On peut te lire sur le site du Tag Parfait et on peut t'envoyer des tokens sur la webcam. Et là, ça, je vais laisser les gens te chercher sur Google.
Ouais. Oui, je suis sur Twitter, partout. J'ai un blog, j'ai mon site où il y a mes films porno, carrerosefilm.com.
Carrerosefilm, ok.
Voilà, je le place.
J'irai ce soir, fébrilement. Et merci.
j'espère, j'attends, je surveille.
Merci Richard Memto. On recommande à nos auditeurs ton essai Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique. C'est aux éditions Zone. C'est 17€ version papier et seulement 12,99€ version numérique.
Et si vous voulez le trouver gratuit, il est entièrement sur le site de Zone, mais très difficile à lire.
Ouais, on va l'acheter.
Ah, oui. C'est mieux en papier.
Crac crac, c'est fini. Enfin, presque. Maintenant, on va passer à Love Story. C'est le moment bandant mouillant de l'émission. Les oreilles chastes coupent le podcast et les autres mouillent leurs doigts.
Ouh, je vois Carmina qui fronce les sourcils. Alors, pour ce Love Story spécial sexe et argent, on a bien réfléchi, je vous explique, c'est vraiment le moment vraiment cul. Là, c'est la bascule.
Ah, d'accord. Okay, on est dans la bascule.
Jusqu'à là, c'était l'informatif du sympa. D'accord. Maintenant, les gens vont vraiment se branler en écoutant ce qui va venir.
Ah, génial. Je suis ravie.
Mais oui, pour cette thématique sexe et argent, on a bien réfléchi. Il n'y avait qu'une seule solution pour faire cette rubrique Love Story, c'est faire lire une nouvelle de cul super hard à notre expert comptable. Notre vrai expert comptable. Bonjour Christophe.
Bonjour.
C'est vraiment la meilleure idée.
Non mais je pratique le fist fucking régulièrement.
Ah génial.
C'est surtout sur nos comptes qu'il le fait. Christophe, tu attestes que tu es bien notre expert comptable.
Ah oui, oui, je confirme. Je regrette d'ailleurs, je le dis.
Depuis plusieurs années, t'as déjà participé à Crac Crac, hein, t'étais venu dans
fait un truc d'intégration.
Ouais, c'est ça, on avait fait un tournage, on va pas dire plus, mais voilà. Il y a eu des gifs animés qui sont sortis de cette séquence.
Des souvenirs émus.
Voilà. Donc Christophe, t'as accepté de venir, tu sais pas trop pourquoi. Christophe découvre comme vous ce qui est en train de se passer. Christophe, t'as accepté de venir nous lire un extrait de littérature érotique. Tu sais pas du tout ce que tu vas
pas
lire.
Pas du tout, non.
On t'a choisi un sujet qui te parlera, qui s'appelle « Hôtesse de caisse » de Gaël Bertignac aux éditions Média 1000.
D'accord.
Alors Christophe, je te plante l'intrigue en fait de Hôtesse de caisse. C'est une héroïne, Gaëlle, qui est hôtesse de caisse, comme le titre bouquin l'indique. Nous sommes donc à l'hypermarché avant l'ouverture du matin. Je vous fais rêver là. Il y a David, un beau jeune homme qui arrive comme chaque mercredi pour livrer des produits locaux. Il est de bonne humeur car, je cite, « le supermarché était un vivier de vulves dans lesquelles planter son poireau ». Et ça tombe bien parce que Gaëlle travaille au rayon légumes aujourd'hui. Alors, à toi, Christophe. Tu es donc dans la peau de Gaëlle.
Tu dois exciter les auditrices et auditeurs. Hein. Oublie
d'accord,
pas. Hein.
D'accord. Je change pas ma voix ou...
Non. Enfin, c'est toi l'artiste. Enfin, c'est comme tu le sens. Donc, tu parles bien dans le micro.
C'est formidable.
Tu penses à exciter les gens. Surtout ceux qui sont en face de toi actuellement.
Je me suis penché. Je me suis rapproché, raccroché à sa queue. Elle était plaquée à son ventre, rigidifiée, figée dans sa dureté. Je mâchais ses couilles. Puis je suis descendu. Il était très poilu entre les fesses. Quand j'ai agacé son anus de la pointe de l'ongle, il s'est mis à se tordre dans tous les sens, comme un serpent. S'il y a des personnes qui connaissent mal leur corps, lui avait découvert quelle partie de son anatomie était la plus érogène. « Rentre dedans », gémissait-il. « J'ai trop envie. Vas-y, doucement. Tu as les ongles effilés. Je peux pas faire écouter ça à mon fils. Hein. Ce que je lui avais dit, en fait. J'ai posé mon majeur contre son anus. Un instant, je me suis senti ridicule dans cette position. J'ai pensé à la caméra. Ça ferait une vidéo d'anthologie qui circulerait dans le magasin. Les filles allaient se régaler. Je l'ai pénétré aussi délicatement que je pouvais. Il s'agitait, il geignait. Il a poussé un cri. Est-ce ce plaisir? Était-ce de plaisir ou de souffrance? Il avait débandé. J'explorais du doigt la cavité molle. À présent que je le fouillais, son sexe redevenait dur, grossissait. Quand je le léchais, le caressais avec mes doigts, il ne réagissait pas autant.
Enfin, je te parle de mes impôts, Christophe.
Son anus... Ton anus, poulpe, se détendait, s'ouvrait. puis est glissé une IAS fiscale, un deuxième doigt. Puis un troisième. Comme j'avais fait avec toi. Je les ai remués à l'intérieur. De l'autre main, j'ai pris sa queue, sa belle queue qui me faisait envie. Elle était gonflée. À ce moment-là, il a hurlé « Encule-moi !» Je l'ai regardée stupéfaite. Avec quoi ?« Débrouille-toi, je veux que tu m'encules !» vociféra-t-il sur un ton de reproche. J'ai paniqué. L'enculé, je n'avais pas de gode sous la main. Regardant autour de moi, j'ai aperçu des cageots de concombres qui venaient d'être livrés. Je me suis remise sur pied. La caméra DV tournait toujours. Les concombres étaient calibrés. C'était un argument de vente. J'en ai pris un, bien lisse, brillant. Tu veux que je t'encule ? Tu ne vas pas être déçu.
Bravo !
Je pense qu'il y a vraiment une vocation là dans le podcast érotique. Hein.
Merci Christophe. Tu sais, mon abattement fiscal de 8% est turgescent et nervuré grâce à toi.
Merci à toi pour tes surprises.
Merci Christophe, c'était formidable. Attention, petit message de prévention. Bien utiliser des préservatifs sur vos légumes et surtout, chers amis, du lubrifiant. Et bien sûr, 5 fruits et légumes par jour.
Merci beaucoup, Carmina.
Merci pour
tu reviens
merci
nous
Camille.
Voir quand tu veux.
Avec plaisir.
Pareil, Richard, merci énormément.
Merci à toi.
Pour tes lumières et oui. Ton savoir. Et puis merci, Maxime, qui est retourné faire des trucs dégueulasses dans sa cave.
Bonne nuit, chers auditeurs.
Et bonne nuit, chères auditrices.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast Crac Crac.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.